France Culture.
Salle des archives. Mathieu Garrigou-Lagrange.
France Culture, salle des archives. Libé, un roman vrai. Chapitre 4, le folklore libé. Soyons honnêtes, quand on choisit de faire ce métier de journaliste, c'est aussi un peu pour son folklore. Les ambiances de rédaction, le côté grande famille de la presse, l'atmosphère de bazar organisé, l'impression aussi d'être là où ça se passe, sont des attraits du métier qu'il ne faut pas sous-estimer. Cette atmosphère, qui peut au passage donner l'impression d'être payé simplement pour faire ce qui vous plaît, s'est peut-être un peu désagrégée dans la soude du télétravail. Les rédactions se vident de plus en plus à mesure que les journalistes envoient leurs papiers depuis la table de leur cuisine. Mais ces atmosphères de rédaction, elles existent toujours néanmoins, et elles étaient encore bien vivaces quand j'ai commencé à les fréquenter à la fin des années 90. Cette mythologie de la presse a donc un peu joué dans ma vocation, et l'idée que je m'en faisais à l'époque ressemblait assez à l'image qu'en donnait Libé, une ambiance qu'on pouvait imaginer à la fois géniale et bordélique, libre et inventive, le contraire absolu de l'ennui au travail. J'aurais aimé vous faire partager cette atmosphère grâce à une archive, mais il faut croire que, à chaque fois qu'un reporter a eu l'idée d'enregistrer une conférence de rédaction de Libé, celle-ci est devenue presque tranquille. Exemple avec cette archive, nous sommes le 9 janvier 1980.
Sur l'Iran, il y a les célébrations du deuil chiit aujourd'hui à Rome. Et on attend. Alors là, qu'est-ce qu'on attend de Marc ?
Il y a un magazine.
D'accord. Mais il fait de l'actu aujourd'hui. Il s'est mis d'accord avec Marie-Christine.
Sur, oui.
Oui. Il est parti à Rome, justement.
Bon. Donc il y aura un papier de reportage sur les manifs de ce matin.
Madari.
Madari.
Quand j'ai commencé à faire du journalisme, j'ai découvert avec plaisir que ces ambiances de rédaction ne relevaient pas totalement du mythe. Au quotidien Sud-Ouest, par exemple, il y avait quelques personnages intéressants. Parmi les titulaires, bien sûr, qui emmenaient les plus novices dans des virées nocturnes, lesquelles commençaient au bar et finissaient avec de la bière sur la plage au milieu de la nuit. Le lendemain, entre midi et deux, les mêmes titulaires nous emmenaient récupérer un peu en jouant à la pala, une sorte de pelote basque qui se pratique avec une balle en gomme qu'il faut chauffer à la main. Parmi les stagiaires dont je faisais partie, on trouvait également des personnages inattendus. Je pense à un grand garçon baraqué qui était arrivé le premier jour de son stage avec un caméscope et s'était mis à filmer tous les bureaux de ses collègues, c'est-à-dire les nôtres. Il se promenait entre les ordinateurs, filmait la vue sur le port par la fenêtre, s'arrêtait devant la porte du patron de la rédaction pour un long plan sur l'étiquette qui indiquait sa prestigieuse fonction. Et quand on lui avait demandé à ce stagiaire la raison de son film, il avait simplement répondu qu'il comptait le montrer à sa mère. L'ambiance générale était donc à la fois studieuse et potache. Je me souviens d'un jour où j'avais du mal à trouver un titre convaincant pour un article sur une manifestation. J'en avais parlé à l'un des titulaires, qui s'était retourné vers moi le plus sérieusement du monde et m'avait demandé « Il y avait des tambours à ta manif ?» J'avais répondu qu'il n'y en avait pas. « Alors il y avait des trompettes ?» Non, il n'y en avait pas non plus. « Alors t'as qu'à titrer sans tambour ni trompette ?» À France Culture, dans l'équipe de Jean Lebrun où j'ai travaillé par la suite, cela pouvait également être assez folklorique. Jean Lebrun l'a d'ailleurs raconté lui-même à Xavier Mauduit au moment où il a quitté Radio France en juin 2023.
Parce que ces garçons sérieux, je pense à Marc Voinchet qui est maintenant directeur de France Musique, quand j'étais pas là l'après-midi, ils faisaient des concours avec les chaises roulantes du bureau, tout était décoré sur les portes, à l'intérieur, derrière les portes, de dessins, d'affiches, de graffitis, comme à la Sorbonne en mai 1968, et Vincent Lemaire a eu une fois cette expression, cette image que je trouve assez juste. Je pense qu'un journal à Buenos Aires, c'était quelque chose comme ça. C'est-à-dire que c'était à moitié ruiné. On avait réussi à obtenir une table pour nous en forme ovale. Et chacun posait son ordinateur dessus. Et l'idée, c'était que, oui, qu'il y avait une sorte d'égalité quoi, entre tous.
J'ai bien conscience que toutes ces anecdotes figurent malgré tout au niveau débutant sur l'échelle du folklore de la presse. Le niveau avancé, c'est à Libération que ça se passait, là où le curseur était poussé un peu plus loin, sans doute même un peu trop loin. Alors dans cet épisode, nous allons justement vous raconter quelques histoires du folklore libé. Alexis Bernier, vous êtes directeur de la publication de Tsugi ainsi que de la salle de concert Le Trabendo à Paris. Et vous avez également été journaliste à Libération. Alors toutes les anecdotes qu'on a racontées jusque-là sans doute ne sont pas grand-chose comparées à ce qui se passait dans ce journal. En tout cas, c'est la réputation qu'avait la rédaction de Libé. Est-ce que c'était une réputation justifiée ?
Alors c'est une réputation effectivement qui n'est pas usurpée, mais à la fois, ce qui est assez drôle, c'est que dans l'archive, on entend parler de concours sur les chaises à roulettes du journal, et on faisait ça aussi régulièrement à Libération.
Donc la course de chaises à roulettes, c'est une...
Ça fait partie des choses qui pouvaient être faites. Après, on a fait bien pire. Quant aux affiches et autres caricatures, on avait aussi à Libé quelqu'un qui était ce qu'on appelle l'archiviste Barbu, qui est un garçon formidable qui veillait sur les archives de Libération et qu'on pouvait toujours aller consulter grâce à lui et à ses classements. Et il avait un talent de caricaturiste assez exemplaire. Et très souvent, il faisait des caricatures de la patronne, donc Sœur Julie, qu'on retrouvait dans les couloirs avec beaucoup de mordants.
Parmi les plumes les plus marquantes de Libération, on compte la journaliste Florence Obna. Elle est arrivée à la rédaction en 1986 et y a passé 20 années. Elle a d'abord été secrétaire de rédaction, c'est-à-dire qu'elle corrigeait, mettait en page et s'occupait de valider ou de modifier les titres et les chapeaux proposés par les journalistes. Elle a ensuite été reporter, affectée en particulier aux faits divers en 1988. Elle a souvent raconté à quel point elle aimait rester au journal quand personne ne s'y trouvait plus, par exemple le jour de Noël ou le 31 décembre, parce qu'elle pouvait choisir de traiter exactement les sujets qui l'intéressaient. En général, c'était des sujets du bas de la pile, ceux dont peu d'autres journaux parlaient, mais dont elle aimait tirer des histoires inattendues qui racontaient la vie autrement. Aujourd'hui, journaliste au Monde, elle a raconté ses années libées dans une émission de France Culture, un avoine nu de Pauline Chanu, dont on va entendre quelques extraits. Le premier porte sur l'atmosphère, justement, à la rédaction de Libé.
Alors, l'ambiance était très agréable. Alors, au début, j'ai pensé que c'était ça, la presse, que ça marchait comme ça. Donc, les conférences de rédaction étaient ouvertes à tout le monde, ce qui n'est pas du tout le cas dans les journaux en général. Qui voulait venir, venait. Et alors, le roi de la journée était celui qui arrivait à arriver son clou au plus puissant. Donc, oui, j'ai lu le papier d'un tel, ou j'ai vu un tel, c'est vraiment nul. Donc, c'était vraiment des relations assez dures. Et volontairement conflictuel, c'est vrai que Sœur Julie, alors ça se terminait toujours, Sœur Julie avait écrit un bouquin qui s'appelait « Seule la crise est féconde ». Donc on disait tous, voilà, pas de bon journal si on ne s'est pas mis sur la figure avant. Et ce qui était formidable, c'est que la plupart de ceux qui travaillaient là n'avaient pas une formation classique de journaliste. Ils avaient fait tout à fait autre chose, ils avaient été les rois des boîtes de nuit, des cinéphiles invétérés, l'un avait été boxeur, l'autre avait été... Palefrenier, Lade, enfin c'était... Et donc il y avait ce côté qui n'était pas une rédaction classique. Et c'est vrai, quand je suis allée, ensuite je suis passée à l'Obs bien plus tard, je pensais que c'était comme ça qu'on faisait partout. Et donc dès que je croisais quelqu'un, je trouvais urgent de lui dire toutes les critiques que j'avais à faire sur son papier, en pensant que c'était exactement comme ça qu'il fallait se comporter. Donc je me suis fait une paire d'amis pour la vie, ça je peux vous... c'était pas le bon moyen de se faire accepter.
Alexis Bernier, on sent vraiment le plaisir de Florence Omna de se remémorer ces années à Libération.
Ben oui, parce qu'on s'amusait. J'ai dû faire ma première pige en 95. Je connaissais bien le journal avant, mais je l'ai vraiment fréquenté de l'intérieur à partir de 95-96. Et effectivement, on rigolait. On s'amusait, on travaillait, mais on rigolait. Elle parlait notamment des conférences de rédaction qui étaient un théâtre. ces conférences de rédaction incroyables. Moi, la première fois que j'ai visité le journal, dont le bâtiment était lui-même très impressionnant, hein. Et il y avait cette grande salle ronde, qui était donc quelques box réunies, avec une énorme table ronde dans un métal cuivré.
Énorme, c'est-à-dire qu'on pouvait être à 30 autour ou
on pouvait être à une trentaine autour. Elle était fascinante, cette table. Je me souviens d'être monté dessus une fois au cours d'une soirée, on a l'impression d'un podium géant de boîte de nuit. Et sur cette grande table du comité d'ordre d'action, effectivement, les chefs de service, c'est parce que c'était quand même assez hiérarchisé, hein, ne s'asseyait pas qui veut.
Donc c'était pas aussi démocratique
les débuts. Il y avait un premier cercle qui était vraiment le cercle des chefs de service et Julie effectivement qui trônait, et derrière le deuxième cercle c'était les journalistes des différents services qui aimaient participer à ce théâtre. S'asseyaient sur les placards, s'asseyaient par terre.
Et tout le monde pouvait prendre la parole.
Tout le monde effectivement pouvait prendre la parole. Souvent ça commençait par une autocritique du journal de la veille avec effectivement des insultes qui pouvaient voler, des engueulades parfois très très sévères, et puis il y avait aussi beaucoup d'humour. Et c'était aussi impressionnant, hein, pour le coup, parce que moi je me suis retrouvé plusieurs fois en tant que rédacteur en chef adjoint du guide, j'en menais pas large. Hein.
D'où venaient les journalistes? On a entendu dans l'archive que Florence Aubenas explique qu'il y a des journalistes qui venaient de partout et qui venaient surtout pas des écoles de journalisme. Est-ce que c'était encore comme ça dans les années 80?
Totalement, c'est mon cas. Moi, je n'ai pas fait l'école de journalisme. J'ai trouvé à m'incarner à Libération par la musique, par mon goût pour la musique. Et j'étais pas le seul, hein. Énormément de mes petits camarades n'avaient pas de forcément de formation de journaliste. Et pour le coup, c'est aussi ça qui faisait beaucoup du style de Libération. Parce que les écoles de journalisme, elles donnent énormément de tips, hein, mais elles formatent aussi beaucoup. Et l'écriture des Libérations était tout sauf formatée. Après, il faut pas non plus trop fantasmer, parce qu'il m'est arrivé souvent de relire des très très vieux numéros, même avec des journalistes que j'adorais, et découvrir que c'était pas forcément ultra bien écrit. Donc, il y avait aussi, dans cette dimension du folklore de Libé et du fait que tout le monde n'était pas formaté, des articles qui n'avaient aucun sens.
Les locaux font beaucoup pour l'ambiance d'un journal. Les débuts de Libé, dans les années 70, ont pris place au 27 rue de Lorraine, dans un coin populaire du 19e arrondissement. Ensuite, au moment du lancement de Libé 2, dont nous avons parlé dans l'épisode précédent, le journal a déménagé dans des locaux plus grands, rue Christiani, dans le 18e arrondissement. Et puis, en 1987, porté par son succès, le journal fait réhabiliter un parking, rien de moins, pour y loger sa rédaction. Un très grand espace, avec plusieurs plateaux en open space, qui ouvre sur l'une des plus belles terrasses de Paris. Ce parking, transformé en bureau, incarnait parfaitement la singularité du titre. Quoi de plus underground, en effet, qu'un journal fait dans un parking, aussi peu souterrain soit-il. Dans ce parking mythique de la rue Béranger, chaque service occupait donc un grand plateau sur chacun des demi-niveaux. Sur l'un d'entre eux, une immense table ronde accueillait la conférence de rédaction. Ce n'était pas une salle fermée, cet espace était ouvert à tous les vents, et chacun pouvait s'y rendre conformément à la promesse de transparence et de démocratie directe du premier Libération. Visite de l'endroit avec François Reinhardt dans une archive du 19 juillet 1990.
Il y a quelque chose de très agréable dans les locaux de Libé, c'est que, je le dis en deux mots, parce que je pense que les auditeurs ne le savent probablement pas, c'est un ancien garage. C'est un ancien garage qui a été fait, qui a été reconstitué par un architecte, et donc il y a non pas des escaliers qu'on monte entre les étages, mais ce qu'on appelle ici, dans notre jargon, une longue vis. La vis, c'est cette longue rampe sur laquelle montaient les voitures. Elle est maintenant recouverte de moquettes, et grâce à Dieu, il n'y a plus des voitures qui nous poursuivent quand on monte à la machine à café, mais il reste cette rampe qui passe comme ça, qui monte de salle de rédaction en salle de rédaction. Hein, il y a les étages différents, la culture, la politique, la société, l'économie, etc. Et donc ça permet quand même une grande communication, quoi. C'est vrai que je pense pas que ce soit forcément toujours excellent pour la productivité totale. C'est-à-dire que fort souvent, il y a un copain qui passe dans le couloir en criant, se boit un café, alors vous montez avec celui-là, puis vous recommencez une minute plus tard avec l'autre. Enfin bon. parle peut-être de mon cas particulier, mais en tout cas, ça aide à la communication, parce que c'est vrai que on voit, vous passez dans le couloir, vous l'avez fait tout à l'heure, vous passez dans le couloir, vous voyez immédiatement qui est là, qui est pas là, tiens, je vais aller dire bonjour à machin, tiens, je vais aller voir truc, etc. Donc, le grand lieu de convivialité, l'hiver, c'est la machine à café, enfin, les machines à café, et effectivement, l'été, c'est la terrasse, ça, c'est très agréable, et même parfois l'été, quand il fait beau, c'était pas encore le cas cette année, mais ça va venir, on amène quelques transats pour aller disserter tranquillement entre camarades sur la façon dont le monde va, et on est sur des transats sur la terrasse, où ça arrive, ça.
Alexis Bernier, est-ce que vous diriez que ce parking de la rue Béranger, quand le journal s'y trouvait, il était très important pour les salariés?
Capital. Quand on entrait dans Libération, dans ces locaux, on avait l'impression d'être dans un endroit qui ne ressemblait à rien. On était dans un endroit qui n'était pas comme les autres. Pour faire un journal qui n'était pas comme les autres.
L'ouverture des locaux d'un journal sur la ville a longtemps reflété leur degré d'ouverture sur le monde. Avant la grande vague d'attentats qui commence avec Charlie Hebdo en 2015, les rédactions des journaux français étaient relativement accessibles. Pas de badge ni de portillon, sauf à de rares exceptions près, des hôtes et des hôtesses d'accueil plutôt que des vigiles engilés par balles. À Libération, journal identifié comme combattant les injustices, cela permettait de nombreuses visites de personnes qui voulaient faire entendre leur voix et raconter leur histoire dans l'espoir d'être entendues.
À Libération, à l'époque, il y avait quelque chose qui était formidable, qui était le hall d'entrée. Et sans Internet, sans rien de tout ça, les gens étaient assis comme chez le dentiste et avaient chacun sur les genoux leur gros dossier, surligné au stabilos pour les passages importants, qui serraient le cœur, comptaient sur la presse pour faire entendre leur voix. Et donc, ils attendaient leur tour et disaient « Mais moi, regardez ce qui m'arrive, et moi, regardez ce qui m'arrive, etc. » Je me souviens, chaque fois que je rentrais au journal, il y avait ce sentiment très fort, je ne dis pas d'être utile, mais en tout cas, les gens vous suivaient des yeux. Enfin, c'était à la fois formidable et triste, parce que c'est bien sûr des gens au bout du rouleau qui sont là. Et donc, c'est aussi le boulot des stagiaires que de le recevoir, parce que les journalistes ont souvent des emplois du temps bien chargés. Et donc, c'est « regarde si ça vaut la peine ». Et donc, parmi les gens que j'ai rencontrés pour ce premier reportage, c'était un couple de parents qui avaient perdu leur enfant, qui était tombé d'un banc public. Pour eux, ils disaient « voilà ». Alors, ils faisaient le tour de France des bancs publics. Et les gens étaient tombés. Et ils disaient « est-ce que les bancs publics, c'est dangereux? Faut-il interdire les bancs publics ?» Évidemment, vous avez bien rendu compte que les bancs publics existent toujours. Mais c'était leur façon pour eux d'exorciser cette énorme douleur de perdre un enfant. Et c'était quelque chose de très fort et très beau. Je voyais mes collègues passer et repasser alors que je parlais à cette famille. Je me dis, mais c'est très intéressant. Et en sortant, ils me disent, alors, d'un air goguenard, je dis, ça vaut au moins une page. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et c'est passé.
Alors ça, Alexis Bernier, c'est un Libération que vous n'avez pas tout à fait connu. C'est la Libération des années 80. Est-ce que ça signifie que, au fur et à mesure, il y a une normalisation, à chaque fois un peu plus grande, les années passant, de ce journal, et qu'à un moment donné, il n'y a plus eu cette espèce de salle d'attente où chacun venait, avec espoir, présenter son cas?
Oui, normalisation, effectivement. Les choses bougent. La génération de 68 avait du mal à laisser la place aux jeunes qui poussaient derrière, mais petit à petit, certains arrivaient, et certains n'avaient pas forcément la culture des années, on va dire, marginales ou contre-culturelles ou underground de Libération. Beaucoup de jeunes journalistes sont arrivés avec le temps sans avoir une réelle... venaient à Libé comme n'importe où ailleurs, et eux, effectivement, sortant d'école de journalisme. Donc ça a petit à petit normalisé les choses.
Un soir, on a vu arriver au journal, c'était un dimanche soir, je crois, deux prostituées, ou trois prostituées, on avait réussi à être deux ou trois, qui sont venues nous voir. Pourquoi? Parce qu'il y en avait une des trois qui lisait Libération. Et elles nous ont expliqué que... elles en avaient marre, qu'elles étaient prêtes à faire grève, à faire un mouvement, qu'elles voulaient occuper une église, qu'elles... Et on vient vous voir pour nous aider. Quelle église? Où pouvons-nous aller? Déjà, nous n'étions pas particulièrement compétents en matière d'église, ni en matière de prostitution, donc c'était très compliqué. Mais enfin, donc on les a accompagnés. Je me rappelle, ce soir-là, je les ai accompagnés. On est allé à Notre-Dame, on s'est fait virer par le curé de Notre-Dame. Hors de là!
un extrait du film de Michel Capture, Les années libées de 1993. À quoi est-ce que ça vous fait penser?
C'était un journal de lutte, hein. C'était un journal des luttes. Donc effectivement, la lutte, les luttes des prostituées, on trouvait naturellement leur écho dans le journal, et je trouve effectivement très révélateur qu'elles soient venues à Libération et pas au quotidien de Paris.
Un folklore moins amusant, c'était la circulation de la drogue dans les locaux de Libération. Dans les premières années du temps de Libé 1, la ligne éditoriale était clairement favorable à la légalisation du cannabis. Le 18 juin 1976, le journal avait même lancé l'appel du 18 juin, J-O-I-N-T, dont on imagine facilement la teneur. Dans les années 80, c'était plutôt la cocaïne, voire l'héroïne, qui circulait dans les couloirs, montait et descendait la rampe de ce fameux parking avec plus ou moins de discrétion. Jean Guinel, ancien journaliste de la rédaction et auteur du livre « Libération, la biographie », raconte que la drogue circulait d'autant mieux que les dealers étaient parfois des employés du journal. Certains cachaient même leur stock de poudre au sein des locaux et s'y faisaient livrer à l'abri de ces murs.
Pour l'ambiance à Libération, je vous conseille vraiment de lire une bande dessinée signée par Gérard Lefort, Marie Coleman et un dessinateur qui s'appelle Proceps, si je dis pas de bêtises. Il s'appelle Libération, nos années folles. Et effectivement, parmi toutes les anecdotes rigolotes racontées dans cette BD, il est suggéré qu'effectivement la drogue et la cocaïne étaient assez présentes. Je vous laisse découvrir. Oui, il y avait de la drogue à Libération. On fumait. Moi, j'ai vu plein de rédacteurs fumant des pétards au sein du journal. Et après, je vais pas dire que les gens se faisaient des lignes sur les bureaux, mais effectivement, certains ne cachaient, c'était leur mode de vie. Voilà. Après, il y a eu des drames, hein. Il y a eu des overdoses à Libération, effectivement, encore plus quand l'héroïne faisait des ravages au début des années 80, à la fin des années 70. Après, il y a l'alcool aussi, qui était quand même très présent au journal. On pouvait, à la machine à café, trouver de la bière pendant longtemps, hein, jusqu'aux années...
Dans les distributeurs automatiques.
Dans les distributeurs, oui. Et puis, les bouclages étaient parfois assez arrosés. Il y avait quelques journalistes qui étaient réputés pour ça, ou éditeurs. Il y avait les déjeuners qui se prolongeaient, dont certains revenaient très avinés. Malheureusement, ça existe en France dans toutes les rédactions. Hein. Voilà, simplement à Libé, je ne suis pas sûr qu'on en faisait vraiment un drame, sauf quand il y avait un drame.
Une nouvelle tranche de vie du Libé de ces années 90, où l'on retrouve Florence Obna.
Une fois, il m'est arrivé quelque chose. C'est que parmi les personnes qui m'ont embauché, l'une m'avait fait des avances. J'étais déjà embauchée, donc. Enfin bon, c'est toujours un peu embarrassant. On est jeune, on arrive, c'est votre supérieur, bon voilà. Mais ça en était resté là. Et un jour, avec deux autres filles du journal, on va déjeuner. Et vous savez, je sais pas pourquoi, on se prend l'apéritif, etc. Et on se met à parler. On parle de cet homme. Et on se rend compte toutes les trois qu'il a fait à toutes les trois les mêmes propositions. On était toutes les trois dans ce même service. Et donc, on dit, c'est quand même dingue, c'est incroyable, il a fait ci, il a fait ça. Et donc, ensuite, en sortant de table, on se rue, donc nous en étions peut-être à la deuxième bouteille, on se rue dans le bureau du rédacteur en chef en disant, il nous est arrivé un truc scandaleux, telle personne nous a fait des avances. On est là dans les années 90, au début des années 90. Et à notre immense surprise, le type a été viré immédiatement. De façon très révélatrice, on s'est senti coupable. On s'est dit, on l'a fait virer, alors qu'aujourd'hui, ça semblerait, en tout cas, une démarche compréhensible. Et nous, tout engoncés qu'on était dans des relations mal maîtrisées, mal comprises, mal défendues, tout à coup, on s'est retrouvés avec cette victoire qu'on avait presque... On n'avait pas demandé sa tête. On s'est dit, il faut juste le dire, comme on faisait la Libération, ben on va le dire, etc. Et je dois dire que ça a été une sacrée expérience, je vous dis, à la fois la surprise qu'on a eue, que ça soit suivi des faits immédiats, et le fait que ce n'est même pas nous qui l'avons demandé. Et c'est presque le plus triste de l'affaire, si j'ose dire. Et je vous dis, rétrospectivement, je me dis, qu'est-ce qu'on avait dans le crâne, quoi. Mais c'est ça qui s'est passé.
Qu'est-ce qu'elle raconte, cette archive, selon vous?
Elle dit autant sur l'époque que sur Libération. Parce que c'est effectivement très troublant, le regret qu'elle exprime d'avoir fait renvoyer quelqu'un. Voilà. Mais le renvoi immédiat, ça n'a pas toujours été la norme à Libération. Moi, j'ai connu...
C'est plutôt la tolérance.
Oui, j'ai
trop
connu,
de tolérance.
J'ai connu un journaliste important du journal qui se promenait pieds nus dans le journal et allait faire pipi sur la terrasse. Qui nettoyait vaguement après avec un jet d'eau et qui aussi avait la manie de choper tout ce qu'il pouvait sur les tables et ailleurs, puisqu'un jour il volait des vélos, des sacs de courrier avec lequel il courait dans les rues poursuivi par les vigiles du journal. Enfin, tout ça était complètement délirant. Et je pense qu'il a dû avoir quelques blâmes, hein, mais c'est pas allé très loin. Ça, c'est anecdotique, c'est folklorique. Mais il y a cette malheureuse histoire d'un journaliste ouvertement pédophile. Qui,
plutôt, on est dans les années là, antérieures.
On est vraiment dans un temps ancien.
Les années 70.
Oui, tout à fait. Ce journaliste pédophile qui venait avec son fils adoptif, très jeune, au journal, et tout le monde savait, mais personne n'a rien dit. Donc il y avait à la fois des choses formidables et d'autres plus compliquées.
Faisons un bond dans le temps, nous sommes à présent en 2014. Beaucoup de lecteurs ont déserté le titre et il faut faire des économies. La direction imagine alors de rentabiliser le grand bâtiment iconique, ce fameux parking de la rue Béranger. Il faut dire qu'il est très bien placé, tout près de la place de la République, et Bruno Ledoux, nouvel actionnaire, en lien avec le directeur de l'époque, Nicolas Demorand, imagine installer, avec la rédaction, un lieu culturel et un restaurant. Mais les employés réagissent mal à cette idée, archive, février 2014.
Et puis c'est un peu la marque de fabrique du journal Libération, les unes au titre « Choc », mais celle-ci est un peu particulière.
Elle est même frappante, hein. Oui, Libé, effectivement. Titre ce matin, nous sommes un journal.
Ça paraît évident, mais les salariés veulent le rappeler aux actionnaires du quotidien. Hier, ils ont présenté leur projet « Faire de Libération », un réseau social avec plusieurs supports, la radio, la télé, et aussi un lieu culturel au siège du journal. Pour les journalistes, ce serait transformer Libération en une marque, et pour Alice Géraud, qui est membre du CE, c'est insupportable.
Nous sommes un journal, un petit rappel à l'attention de nos actionnaires et de nos lecteurs.
Qu'est-ce que ça raconte cet épisode « Nous sommes un journal »
Je pense que ça raconte beaucoup de choses et c'est la seule moment où moi j'avais quitté le journal à ce moment-là avant d'y revenir. Et j'avoue que je me suis senti très en désaccord avec cette vision ultra romantique et naïve de l'époque, hein. Donc l'idée que Libération puisse être un écosystème où la culture de Libération, les informations de Libération, le traitement de l'information puissent s'exprimer autrement et peut-être dans une boutique où on trouverait des choses qu'on ne trouvait pas ailleurs et peut-être dans un café ne me paraissait pas ridicule et plutôt en lien avec l'époque. Après, c'était effectivement, nous sommes un journal, c'était une proclamation qui a fait du bruit, et on sait très bien, effectivement, ça... Voilà, mais j'ai trouvé ça très naïf.
Le Libé des années 80 a cristallisé l'image d'un journal branché au fonctionnement très singulier dans la presse. À sa tête, Serge Julie en est la figure tutélaire, à tel point qu'il se confond avec le journal lui-même. En 2006, après 33 ans à sa tête, il est mis à la porte par l'actionnaire qu'il avait lui-même fait entrer au capital, Édouard de Rothschild. Pour comprendre Libé, il faut donc essayer de saisir également qui était l'énigmatique Serge Julie. C'est ce que nous allons tenter de faire au cours du prochain épisode.
C'était Libé, un roman vrai. Une série de Salles des Archives par Mathieu Garrigou-Lagrange, réalisée par Delphine Lemaire. Attachée de production, Lily Corner et Anne-Vanessa Prévost. Prise de son, Marie-Claire Oumabadi. Mixage, Manon Houssin. Documentation INA, Hervé Evano. Documentation musicale, Antoine Vuillose.